Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Vous êtes nombreux à vouloir réagir déjà sur ce qui s'est passé ce week-end. Les gilets jaunes doivent-ils s'arrêter? Une majorité de Français le souhaitent. Agression d'Alain Finkielkraut. Est-ce qu'il y a une instrumentalisation décidément de l'antisémitisme par le gouvernement? C'est en tout cas ce que dit Jean-Luc Mélenchon. On va en parler ce matin avec Denise Bombardier. Bonjour, journaliste, écrivain canadienne. Votre dernier livre, c'est votre biographie, ce sont vos mémoires. Une vie sans peur et sans regret qui paraît chez Plon. C'est formidable, je l'ai lu, c'est une somme. C'est passionnant. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes un peu la Anne Sinclair du Québec.
Je ne suis pas mariée aux mêmes hommes.
Non,
elle n'est pas mariée, je l'ai dit.
Oui, je ne sais pas si c'est. Mais bon, ou la Christine O'Krent, ou en tout cas,
pareil,
vous êtes une icône du journalisme au Québec. Et ce livre est passionnant parce que vous y racontez votre vie de petite fille dans cet univers, dans ce Québec très religieux. Et puis, toutes les rencontres que vous avez faites. Donc, je conseille vraiment ce livre pour ceux qui disent « Ah, qu'est-ce que je peux lire ?» C'est passionnant. Sophie de Menton, chef d'entreprise, on attend vos mémoires. Présidente du mouvement éthique. Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonjour. Et Alexis Poulins, journaliste spécialiste des questions européennes. 0826-300-300. On est là avec vous. On attend vos réactions sur ce mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous en avez assez? Est-ce que vous pensez que le mouvement a perdu de sa substance? C'est-à-dire que le propos de fond qui était la lutte pour le pouvoir d'achat plus précisément, est un petit peu perdu de vue. On en parle avec vous. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Sophie, on va commencer avec vous.
Ça me tient à cœur. Si l'orthographe Denise va me comprendre.
Ah oui.
Parce que la langue, c'est quelque chose de très important. Et ça fait des années que, désespérée, je corrige, je relis tout dans ma boîte. Et encore, il m'arrive d'en faire des fautes d'orthographe. Je parle des fautes d'orthographe.
Oui.
Et là, c'est devenu une prise de conscience nationale. Il y a vraiment une question qui se pose. Ça nuit au recrutement. Il faut que tous les gens qui nous écoutent le sachent. Ne laisse pas tomber les SMS des ados. On leur renvoie avec des corrections. Tant pis s'ils râlent. On a totalement laissé tomber la langue. Et l'orthographe, ça fait partie d'une culture, ça fait partie d'un vivre ensemble, comme le fait de parler bien français. Et cette espèce de... Alors, heureusement, on a un ministre de l'Éducation nationale qui tient beaucoup à ça. Et ça, c'est, il faut le féliciter. Ouais. D'ailleurs, on le reçoit demain à Éthique.
Ah bon.
Et donc, là, on en a deux pages dans le Parisien d'aujourd'hui, avec les erreurs courantes, etc. 52% des DRH assurent que le niveau d'orthographe joue dans la mise à l'écart des candidatures. Moi,
bien
même
sûr.
Un type très bien,
bien
je vois
sûr.
Trois fautes d'orthographe. Je me dis, c'est pas possible.
Ouais.
Et alors, par mail, c'est encore pire, parce que vous avez des clients qui considèrent que c'est... on raconte que c'est soi-disant la faute de l'ordinateur ou la faute du clavier. C'est effroyable. Donc, je fais appel vraiment à
non,
tout
mais
le
c'est
monde.
Surtout les conséquences,
c'est une cause nationale.
Effectivement, les conséquences qui font dont les gens,
sont pas
les gens ne se rendent pas compte que quand on reçoit un CV, une lettre...
Oui, mais on perd un client aussi dans les boîtes. C'est pour ça qu'on le fait. Il faut qu'on... Ouais. C'est pas du racisme anti-jeune.
Est-ce qu'ils sont meilleurs, les Québécois, en orthographe, Denise Bombardier?
Alors, je vais vous donner une statistique normalement. Je ne devrais pas dire ça à l'étranger. 52% des Québécois sont des analphabètes...
Combien ?
52%. On appelle ça des analphabètes dysfonctionnels. C'est-à-dire...
Dyslexiques ?
Non. Ils ne peuvent pas comprendre un texte qui est modérément...
On a eu ça, l'étude en France.
52%. Ouais. Et nous, on n'a pas, hélas... On n'a pas votre ministre de l'Éducation, parce que moi, si j'avais un coup de cœur pour la France, c'est le coup de cœur pour votre ministre de l'Éducation. Je ne sais pas dans quelle mesure, je ne sais pas s'il peut avoir un pouvoir qu'on devrait lui accorder et qui serait immense, mais je suis très heureuse d'entendre, de vous entendre dire...
Denise,
que...
vous êtes la bienvenue demain au déjeuner avec lui.
Bon, allez, on passe au coup de cœur d'Alexis. Alexis, vous, c'est un coup de cœur culturel.
Oui, c'est un coup de cœur pour l'acteur Bruno Gantz, qui nous a quitté, qui était la figure des Ailes du Désir, qui est un film qui m'a profondément marqué à l'époque, et qui était aussi l'inspiration d'Anki Bilal, le dessinateur, pour Nico Paul dans La Foire aux Immortels. Et ce film, j'invite tout le monde à le regarder à nouveau, parce que c'est un film merveilleux déjà, et puis c'est un film aussi du Berlin d'avant, la chute du mur, juste avant, et on voit un bouillonnement culturel à l'époque où Wenders fait ce film, où il réunit cette équipe, il y a Nick Cave, etc. Et je juste justement, en le regardant à nouveau, je me disais, mais où est le Berlin de nos années? Où est la ville où on est en train d'inventer un peu le futur de l'Europe, un peu le futur culturel? Où est-ce que ça se rencontre? Quelle est la plateforme, la ville plateforme européenne aujourd'hui? Et je n'ai pas la réponse.
Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle serait la ville.
C'est aussi l'acteur qui a campé un Hitler très réaliste dans la chute, c'est-à-dire les derniers jours d'avril 1945 avant son suicide.
Alors, elle est, Frédéric.
Alors, c'est un coup de cœur ironique, un coup de cœur pour la fondation Abbé Pierre qui, il y a quelques jours, a distingué, dans le cadre d'une cérémonie ressemblant au César, qu'ils ont appelé les pics d'or, les dispositifs anti-SDF dans les grandes villes. Il y a des grilles, il y a des picots, il y a des poteaux, il y a des sièges inconfortables, il y a des rochers, il y a des grillages. Tout ce qui est fait pour rendre invisibles les SDF. Et je trouve assez intéressant que la Fondation Abbé Pierre ait mis en avant. On se souvient, il y a quelques années, il y avait eu un jet répulsif utilisé par la mairie d'Argenteuil pour se débarrasser des SDF. Ça avait fait un véritable scandale. Là, il y a maintenant tout un mobilier urbain censé chasser les pauvres des grandes villes. Et personne ne dit rien. C'était bien qu'ils le mettent en avant. Et puis, ça me permet en tant que sondeur de... rappelez, hein, depuis quelques mois, on ne cesse de faire un distinguo entre les métropoles qui iraient extrêmement bien et les communes rurales qui iraient extrêmement mal. La réalité est beaucoup plus compliquée que ça. Dans une enquête pour la Fondation des familles rurales, on avait bien vu qu'il y a il y a du bonheur dans toute une série de ruralités. Et on sait que dans les métropoles, il y a maintenant ces SDF à qui on fait la guerre au lieu de faire la guerre à la pauvreté.
Denise, vous avez un coup de cœur, un coup de gueule? Vous êtes en France depuis quelques jours.
Mon coup de gueule, c'est pas... Je veux dire, ça fait à peu près 35 ans que j'ai le même coup de gueule. Mais là, ça a dépassé toutes les bornes. C'est l'anglicisation des marques de commerce, l'anglicisation. Enfin, ce qui se passe
France,
au Salon du Livre. Au Salon du Livre,
absolument.
C'est plus des livres, c'est des books.
Oh, et c'est vrai.
Mais c'est ahurissant. Et comment voulez-vous qu'au Québec, on dise qu'il ne faut pas faire d'anglicisme? Quand, en fait, on a besoin d'un pays de référence si on dit qu'il ne faut pas que vous fassiez des anglicismes parce que. Mais c'est pas. Mais alors là, dans
encore
nos journaux.
Encore une fois, la langue est tellement importante. Je suis tout à fait d'accord.
Mais ce qu'il y a derrière ça, plus profondément, si on voulait faire un peu de. Si on voulait creuser un peu et voir les justifications pour ça, on a l'impression que d'utiliser les mots anglais comme ça, ça veut dire que les mots anglais ont plus de connotation affective ou intellectuelle que les mots français. Parce que quand on dit, on aime mieux dire « je suis love » et « tu me loves », comme j'ai entendu, et ben ça veut dire que le mot « amour » n'a moins de force.
Enfin, le président de la République qui lance le terme « fake news », gouvernement, alors que les fausses nouvelles, les rumeurs, on a un vocabulaire incroyable.
Et un président qui est instruit.
Un président.
Président qui est cultivé.
Pour la campagne internationale.
Et je ne sais pas, parce que ça s'accentue de plus en plus.
Oui, c'est vrai, vous regardez les chaînes d'infos.
Ah, je deviens folle.
La punchline, c'est incroyable. C'est news.
Et en plus, pour des Français qui ne parlent pas très bien l'anglais.
Qui ne parlent pas du tout.
C'est plutôt le Québec qui est référent sur les mots.
Oui, mais je vous explique qu'au Québec aussi, les jeunes sont comme ça.
La baladodiffusion pour dire podcast, finalement, les jolis mots.
Le courriel pour le mail,
le courriel, tout ça.
On l'a utilisé, le courriel, vous continuez à dire courriel.
Personne n'utilise le mail au Québec.
C'est vrai?
Non, encore, personne. Même les jeunes qui parlent à moitié. Mais écoutez, je vais vous donner l'exemple absolu de ça, parce que c'est l'exemple absolu. La mairesse de Montréal, que moi j'appelle Sœur Sourire, parce qu'elle rit tout le temps, même quand ça marche mal, quand ça va mal, elle rit, quand ça va bien, elle rit, donc on ne sait plus pourquoi elle rit. Eh bien, elle a fait un discours, elle a inauguré une usine appartenant aux Anglais, à des Anglais d'Angleterre, et à Montréal, il y a un mois et demi, et elle a fait tout son discours en anglais. À Montréal, deuxième ville française au monde. Incroyable. Et savez-vous ce qu'elle a dit? Après, quelqu'un lui a fait la remarque, elle dit même, je me suis même pas rendu compte que je parlais anglais.
Et terrible.
Si on en est rendu là, vous voyez.
C'est pas terrible. Moi, je voulais faire un coup de cœur à Sophie de Menton.
Ça, c'est gentil.
Non, c'est pas ironique. Alors, vous savez que vous clivez beaucoup sur Internet. Les gens, il y en a un qui vous salue d'un bonjour, Madame la Baronne. Je précise que vous n'êtes pas noble. mais non, c'est un coup de cœur parce que et qui devrait vous réconcilier peut-être avec ceux qui pensent que vous n'êtes pas gilet jaune, puisque 74% des entreprises vont verser une prime. Alors, ça s'appelle la prime Macron. En fait, c'est vous qui avez eu cette idée, Sophie de Menton, une prime à leurs salariés. Cette prime, elle a commencé à être versée principalement par les petites entreprises. Celles de moins de 50 salariés ont versé une prime de 687 euros à leurs salariés. Les moins généreux, ce sont la grande distribution. C'est l'association des DRH qui a publié ces chiffres. C'est vous qui avez eu cette idée, qui l'avez envoyé à Xavier Bertrand, qui l'avait envoyé au ministre de l'économie.
De l'économie, oui.
Peu importe que ça vous revienne ou pas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même eu quelques progrès avec les manifestations des Gilets
Alors,
jaunes.
C'est merci beaucoup Valérie. Merci parce que il n'est pas question d'appeler ça la prime manteau. Non. Mais c'est vrai que c'est les chefs d'entreprise de notre mouvement éthique qui ont eu cette idée en disant, bon, on va aider au pouvoir d'achat tout de suite dès que les Gilets jaunes étaient dans la rue. Et on s'est dit, oui, mais stop. Et j'ai demandé qu'il y ait une prime qui aille directement de la poche du patron à la poche du salarié sans prélèvement. Ça a été difficile. J'ai été soutenue par Xavier Bertrand. Et puis, petit à petit, le politique se l'est approprié. C'est ça que je trouve inadmissible.
Bah, c'est très bien.
Pourquoi appeler ça la prime Macron avec le président de la République qui dit « allez donner » en conseillant aux chefs d'entreprise d'aller donner.
Alors que ça vient d'eux.
Alors que ça vient des chefs d'entreprise. Et les chefs d'entreprise sont suffisamment pas valorisés dans ce pays pour que quand ils veulent favoriser leurs salariés, on le dit. Donc merci beaucoup Valérie.
Et voilà. Allez, on se retrouve dans un instant. Les Gilets jaunes, est-ce la fin du mouvement? Non, bien entendu. Mais en tout cas, est-ce qu'il faut faire un petit peu de ménage et puis l'agression dont a été victime monsieur Finkielkraut. On en reparle dans un instant. 0826 300 300.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert
avec vous sur Sud Radio. Pour parler des Gilets jaunes, les Gilets jaunes doivent-ils s'arrêter? Doivent-ils faire le ménage? Une majorité de Français, en tout cas, le souhaite. On va peut-être commencer avec Frédéric Dabi qui auscultait l'opinion publique avec des sondages qui sont toujours contre lesquels il y a beaucoup de défiance quand ils vont contre le mouvement des Gilets jaunes. Je sais qu'on a eu beaucoup de réactions la semaine dernière en disant oui, les sondages, etc. Oui. Mais enfin là, il y a un mouvement quand même qui se passe.
Oui, alors tout à fait, mais c'est pas si simple que ça. Vous savez, Valérie, qu'avec CNews, Fiducial et Sud Radio, on suit l'état de l'opinion sur le mouvement depuis le début. Là, dans l'enquête JDD de dimanche, il y a un tournant. Pour la première fois, le soutien et la sympathie sont à peine équivalents à 50%. Pour la première fois, il y a une majorité de Français, une courte majorité, 52% qui souhaitent que le mouvement cesse. Et puis, il y a d'une part une lassitude des Français.
C'est pas beaucoup, hein.
Alors, non, c'est pas beaucoup.
J'allais finir. D'autre part, ce qui est très intéressant, c'est d'une part le fait que qu'est-ce qui a fait que le soutien a été très fort alors même qu'il y avait des exactions? Le soutien a été le plus fort après le 1er décembre. Tout se passe comme si les Français opéraient une dissociation entre les Gilets jaunes et la violence. Cette dissociation opère de moins en moins. Pour autant, et je rebondis sur ce que Sophie vient de dire, un mouvement aussi inédit, j'avais parlé d'OSNI, hein, d'objet social non identifié, c'est pas un anglicisme, chère Denise, au bout de 14 semaines, qui est encore 50% des Français qui soient en soutien, en sympathie, à peine 52% qui souhaitent que ça s'arrête, c'est parce que ce mouvement, on peut dire ce que l'on veut, il y a de moins en moins de personnes dans la rue, c'est le reflet d'angoisse très forte des Français, le déclassement, le pouvoir d'achat, même si c'est vrai qu'on en parle de moins en moins pour des revendications beaucoup plus baroques, comme le RIC, par exemple.
Ouais. Moi, j'ai une question plus basique qui est, j'entends bien la défense, et Alexis Poulain, vous êtes, vous, un grand défenseur de ce mouvement. Si c'est un mouvement de fond, un mouvement aussi profond, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un million de personnes dans les rues partout?
Oui, alors, il n'y a, pas beaucoup de gens dans la rue, parce que déjà, 14 samedis consécutifs,
mais au-delà des 14
ça
samedi,
fait beaucoup. Il y a la violence aussi des manifestations des Black Blocs, de manifestants et des forces de l'ordre qui fait qu'on n'a pas forcément envie de se retrouver au milieu des gaz lacrymogènes le samedi. Et puis, il y a aussi le fait qu'il ne faut pas oublier que c'est un mouvement extrêmement décentralisé, qui a commencé sur les ronds-points, et ce n'est pas ce côté où on va faire une grande manifestation unitaire. On voit bien que c'est compliqué d'arriver à dire on va réunir un million de personnes dans la rue. Peut-être que ça viendra, parce qu'il va falloir réinventer de toute façon la mobilisation et la visibilité de ce mouvement. On ne peut pas continuer comme ça à faire tous les samedis.
Qu'est-ce que ça veut dire, on ne peut pas continuer comme ça? Parce que moi,
ça veut dire qu'il faut comprendre qu'on est dans une guerre de tranchées, parce qu'on a l'impression que ni un camp ni l'autre ne veut entendre les arguments de l'un ou de l'autre. Le grand débat, pour le moment, c'est un grand...
Quel est l'autre camp?
L'autre camp, c'est le gouvernement.
Le gouvernement est l'IRAM, hein.
Exactement. Il fait ce qu'il peut. Il fait globalement la sourde oreille en disant on a entendu, mais on va quand même vous expliquer.
Quand on lâche 10 milliards, c'est quand même pas la sourde oreille, mon cher Alexis.
Il y a eu
une période de sourde oreille. C'est vrai qu'avant le 10 décembre, et c'est d'ailleurs ce qui est encore reproché fortement à Emmanuel Macron, je fais référence au verbatim du baromètre IFOP-JDD, le fait qu'il ait laissé en termes de perception pourrir la situation lui est encore amèrement reproché. Mais depuis, il y a eu quand même des.
La réponse sécuritaire qui n'était pas la bonne. Il faut voir que voilà le
alors maintenant on lui reproche de pas avoir de réponse sécuritaire. Je sais pas comment il peut s'en sortir.
Il a une réponse sécuritaire.
Il n'est que sécuritaire.
Moi je crois qu'elle soit sécuritaire.
Il y a le grand débat.
Pas tous en même temps. Un mot quand même encore Frédéric Dabi. Oui. Je vois on a régulièrement ce type de remarque. Beach Coffee qui dit sondage fait sur 1000 personnes, je n'y crois pas.
Oui, alors c'est vrai qu'il faut dire à Beach Coffee qu'il y a des pays merveilleux où il n'y a pas de sondage, c'est ce qu'on appelle les dictatures. Il y a une loi qui est la représentativité. 1000 personnes, c'est pas une question de nombre, mais est-ce qu'avec 1000 personnes, on arrive à avoir une France, une sorte de mini-France en termes de sexe, d'âge, de profession, de région, et grâce à l'INSEE, on est capable de le faire en France.
Moi, je voudrais demander à Denise Bombardier...
Excusez-moi, c'est moi qui ai une émission, mais c'est la question que j'allais poser. Donc
depuis qu'elle a eu son coup de cœur, ça y est, c'est terminé.
Évidemment, mais je voulais qu'on fasse le point avec Frédéric sur les mouvements d'opinion. Denise Bombardier, vous voyez ça comment, du Québec?
Ben moi, j'ai compris pourquoi les gens descendaient dans la rue, puisque c'était des gens qui ne se sentaient pas représentés par quiconque. Mais à partir du moment où tout de suite la violence a commencé, et la violence, d'ailleurs, là, je ne sais plus pourquoi ils sont dans la rue, parce que c'est un scénario qui se reproduit, c'est copie conforme à chaque semaine. Ils descendent dans la rue, ils sont tranquilles, les autres arrivent, ils cassent tout. Moi, j'ai même vu au boulevard Raspail, j'étais dans le boulevard Raspail, mon hôtel est à côté, j'ai vu des gens, ils ont sorti des espèces de bâtons, comme des bâtons de baseball, et ils ont démoli un abribus pour rien. Je me suis dit, mon Dieu, ils s'amusent. Oui. Hein, ils s'amusent. Moi, de toute façon, il y a une chose, je ne crois pas qu'on gouverne en démocratie, c'est la rue qui doit gouverner. Ça, pour moi, ça m'apparaît évident. La démocratie permet aux gens d'exprimer leurs oppositions aussi en descendant dans la rue. Mais ce qui m'inquiète dans ce mouvement, c'est un mouvement, mais je veux dire, c'est l'addition des idées ou des lubies ou des conceptions de chaque personne. On ne sait pas il n'y a pas de représentation, ce n'est pas... Et moi, l'avenir de ce mouvement, il faut que ça s'inscrive à l'intérieur de partis politiques, éventuellement. Et c'est pas possible, alors vous allez les laisser dans...
Excusez-moi, ce que vous dites est absolument passionnant, mais c'est justement là où le bas blesse. Qu'est-ce que c'est que l'histoire de ce mouvement des Gilets jaunes ? C'est un mouvement qui systématiquement a délégitimé tout porte-parole, représentant, pour reprendre votre terme,
tout
de Denise Bombardier.
Tous les syndicats, tout ça, ils n'en veulent plus.
En leur sein, c'est-à-dire que ce qui s'est passé avec Ingrid de Vavasseur, qui a été huée hier de manière extrêmement violente, c'est... les Gilets jaunes, tellement défiants vis-à-vis de toute forme de représentation, qui refusent d'avoir des représentants. C'est ce qui les rend, c'est ce qui était leur force, c'est-à-dire ce mouvement très horizontal, ce qui devient maintenant leur faiblesse, parce qu'ils ne peuvent pas répondre aux accusations d'antisémitisme, de violence, etc.
Alors, je voudrais poser une question justement à Denise Bombardier. Est-ce qu'elle considère, elle, qu'il y a une réponse sécuritaire ? Est-ce que, vu du Québec, est-ce qu'au contraire, parce qu'on reproche tout et son contraire, on reproche de laisser aller pourrir et qu'il y ait de la violence pour qu'ils deviennent antipathiques, c'est ce qu'on reproche au gouvernement, et il y en a d'autres qui reprochent, au contraire, d'être beaucoup trop violents. Et comment vous le ressentez ?
D'abord, ça ne peut pas arriver l'hiver chez nous parce qu'il fait moins 25, moins 35. Nous, il n'y a aucune activité politique
de ce genre. Le réchauffement climatique va résoudre le problème des manifestations.
Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Jamais dans notre histoire, les gens protestent l'hiver. Ils sont gelés, ils ont la mâchoire gelée, ils ne sont même pas capables d'articuler comme il faut.
On fait les réformes l'hiver.
Mais, enfin, je faisais ça un peu pour alléger l'atmosphère. Oui, oui. Mais c'est certain qu'on ne peut pas laisser les gens commettre des actes qui sont criminels.
Mais il c'est quoi ? Il y a déjà eu des manifestations
Bien sûr. On a eu la grande manifestation. On les appelait le printemps érable, là, où ils frappaient sur les casseroles et tout. Et à un moment donné, ben oui, parce que c'était au moment où les érables coulaient. Ah, justement, c'était
joli.
C'est des étudiants qui sont sortis dans la rue pour protester parce que ça aurait coûté 300 $ de plus de frais de scolarité. Alors donc, vous voyez que c'était pas. L'objectif n'était pas.
Et alors, la police a été répressive ?
La police n'a pas du tout été répressive, mais à un moment donné, ils ont été obligés d'intervenir parce qu'il y avait des gens qui se sont mis. Mais en général, ça s'est fait dans la. Mais ça a duré 2 mois et ça a paralysé le Québec quand même.
Allez, on a Bruno en ligne avec nous. Bonjour Bruno, vous nous appelez de Rodez, vous êtes gilet jaune.
C'est Renaud.
C'est Renaud.
Oui, tout à fait, je vous appelle de Rodez. Alors, je voudrais juste revenir sur un point que j'ai entendu là. Moi, je suis pas d'accord. Et nous avons des représentants, porte-parole, appelez ça comme vous voulez, que ce soit au niveau local, départemental et régional. La preuve, nous en avons un ici à Rodez. Ils ne savent pas que je parle avec vous et que je vous donne clairement mon opinion. Mais chacun est libre, de dire ce qu'il veut. Mais on est quand même assez cohérent, voilà.
Mais c'est qui vos représentants? Enfin, vous dites on a des représentants.
Nous avons des personnes dans les gilets jaunes qui ont été élues. Il y a eu des votes. Donc voilà quoi.
Oui, mais enfin, on les voit pas au niveau national, en tout cas. Enfin, c'est un peu une convergence de revendications.
C'est aussi ce qui nous pose problème, nous, en tant que Français, c'est que c'est un mouvement décentralisé. On n'a pas l'idée d'un parti pyramidal, jacobin, où on va avoir des représentants nationaux. Et c'est bien tout le problème. Notre pays n'est pas fait pour ça. On comprend pas. Non. On comprend pas parce que c'est décentralisé. Et ça, il faut le comprendre. C'est nouveau. C'est effectivement le local qui mène la danse. C'est important de comprendre que les problèmes, ça a d'abord été le transport au niveau local, ça a d'abord été des problématiques locales.
Le transport, le pouvoir d'achat.
Le pouvoir d'achat aussi, mais sur aussi l'organisation de l'espace, c'est-à-dire les supermarchés qui font qu'on n'a plus de petits commerces, enfin, tous ces débats qu'on a déjà eus.
Alors, je repose ma question de départ. Il y a eu des réponses sur Internet. Quelqu'un me dit on ne va pas manifester parce qu'on a peur de se prendre des flashballs dans la gueule.
Non, mais sur les ronds-points, vous avez encore un peu de monde.
Pas dans des petites villes, il n'y a pas de CRS, il n'y a pas de flashball. Donc pourquoi est-ce que ce mouvement populaire, profond, de bras-le-bol, il ne s'exprime pas plus au-delà des 10-15 personnes sur les ronds-points? J'ai pas de réponse, moi, à ça.
Vous avez 14 samedis. Ces gens-là ne vont pas rester toute la journée pendant 3 mois sur des ronds-points.
Mais même
à un moment, il faut travailler.
Un mouvement, un samedi avec 100 000, 500 000 personnes.
Ça viendra peut-être. Ça a été essayé avec l'appel à la grève générale qui a été ce qu'elle a été, mobilisation, ma foi, moyenne. Mais c'est bien sûr la suite. Si vous voulez être visible, ça ne peut pas être en allant de moins en moins nombreux tous les samedis et en ayant des revendications hétérogènes. Effectivement, il faut structurer la revendication. Il faut être sûr qu'on va avoir quelque chose qui peut être du local, du national, mais au moins avoir des revendications claires au-delà du Macron démission est de toute façon une fable puisqu'on est dans la 5e République. Donc ce sera extrêmement difficile de faire démissionner le président de la République sur une mobilisation de cette ampleur. Si effectivement vous passez à 6 millions de personnes dans la rue, là on est sur autre chose. C'est le printemps arabe, c'est
alors Mathieu me dit les ronds-points ont été évacués par Monsieur Castaner. Allez, on se retrouve dans un instant. 0826 300 300, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio, avec Alexis Poulain, journaliste spécialisé questions européennes, Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, Denise Bombardier, journaliste écrivain canadienne. Votre livre, Une vie sans peur et sans regret, paraît ces jours-ci chez Plon, et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Alors on a Jacques d'Aix-en-Provence avec nous. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous vouliez nous dire ?
Eh bien, moi, je voulais vous dire, je voulais avancer une explication au mouvement des Gilets jaunes, une explication que je n'ai pas trop entendue jusqu'à présent, qui est que les Gilets jaunes sont aussi, au-delà des fractures territoriales, sociales, culturelles, bon, que tout le monde a évoquées, c'est aussi le résultat de la grande entreprise de disqualification de certains partis politiques français, disqualification permanente, qui est opérée depuis des années. On part du constat qu'aujourd'hui il y a un rejet à la fois des partis politiques et des médias, mais on s'interroge jamais sur les raisons de ce rejet. C'est qu'à longueur d'antenne, alors je ne généralise pas, il y a bien évidemment quelques espaces de débat, mais dans la grande majorité des émissions politiques et de débats qui sont organisés, il y a une entreprise systématique de disqualification de certains partis politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche. Le Rassemblement National, Debout la France, se sont systématiquement stigmatisée de la même façon que la France insoumise. Il suffit de prendre, d'entendre systématiquement de cette litanie qui consiste à dire il n'y a pas d'alternative à la politique d'Emmanuel Macron. Sauf qu'il y a, si vous additionnez les voix de la France insoumise et du Rassemblement national, il y a près d'un Français sur deux qui n'ont pas adhéré à la politique d'Emmanuel Macron. Oui. Donc il serait peut-être tout temps aujourd'hui d'avoir des débats adultes et de considérer que la voix de la France insoumise ou du Rassemblement national peuvent être aussi audibles que d'autres voix. De la même façon, par exemple, on stigmatise systématiquement Laurent Wauquiez. Je cite cet exemple-là pour illustrer le propos. Citez-moi, depuis que Laurent Wauquiez a été élu président des Républicains, citez-moi un seul article, une seule interview, un seul commentaire positif à l'égard de Laurent Wauquiez. Alors vous pensez que Laurent Wauquiez, c'est quelqu'un qui aurait tout faux, c'est-à-dire qui se tromperait sur tout et systématiquement.
Oui.
Mais c'est cette manière de procéder qui provoque le rejet systématique. Et le dernier exemple en date, c'est la campagne qui a été réservée à Bellamy depuis qu'il a été désigné comme.
Alors, Frédéric Dabi va vous répondre.
Oui, cher auditeur, respectueusement, je pense que vous confondez, cher Jacques, frère Jacques même, beaucoup de choses. Déjà, je ne parlerai pas de disqualification. Les médias, et Sud Radio en premier, reçoit fréquemment des représentants du Rassemblement National, des Insoumis, de Boula France. L'époque, on pouvait juger légitime où le Front National était absent, par exemple, des chaînes, mais c'était une autre époque, et complètement révolue. Là où on peut, comment dire, rejoindre Jacques, c'est la question de la représentation. À l'élection présidentielle, les Insoumis, enfin Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, plus Nicolas Dupont-Aignan, ça fait 45-46%. Mmh. Mais, tout de suite, je nuance ce que je viens de dire, là où Jacques est plutôt dans l'erreur quand on regarde ce que nous disent les électeurs des Insoumis et du Rassemblement National, ils ne veulent pas s'allier. Ils sont extrêmement différents. Une enquête IFOP-JDD d'il y a quelques semaines montrait que 80% des électeurs du Rassemblement National et 90% des Insoumis ne refusaient la moindre alliance, donc, dénigrement, non. Représentation, c'est le fait, c'est lié à notre système majoritaire.
Ce que, à mon avis, et la remarque est juste, c'est de dire que sur l'élection présidentielle, et c'est le problème maintenant de cette élection présidentielle de la Ve République, vous êtes élu sur une base qui est toujours à peu près la même d'un quart de la population qui va voter.
Fait encore moins, c'est-à-dire, deux fois.
Oui, voilà, mais c'est bien le problème. Et là où vous aviez des partis politiques fonctionnels qui autoriser des alliances, permettait une diversité d'opinions au sein de grands partis, comme l'a été le Parti Socialiste ou les Républicains, tout ça est fini. C'est aujourd'hui, vous avez des niches électorales qui font que vous ne pouvez pas gouverner à plus de 25%. Et c'est vrai que si vous êtes élu président, vous devez à un moment vous élever et dire « je suis président de tous les Français ». Il va falloir...
Mais il a essayé quand même.
Il a essayé très peu.
Mais tout le monde l'a dit. Mitterrand l'a dit.
Tout le monde l'a dit. Chez Emmanuel Macron, il y a quand même cette idée de dire « j'ai été élu pour un agenda de réforme, les Français veulent ça, faut aller vite ». Non, les Français ne veulent pas forcément ça.
Il a pris à son gouvernement, il a pris des gens de droite, des gens de gauche.
Non, mais c'est rhétorique de dire simplement vous m'avez élu pour ce programme.
Qu'est-ce qu'on fait
Certains l'ont élu pour ce programme.
C'est vrai.
Beaucoup ont voté en disant bah écoutez, c'est
et
ça.
Et la suspicion
ça.
Est terrible
donc,
parce que qu'il n'y ait plus de parti.
Il n'y a
plus vraiment
autrement.
De parti politique, mais la suspicion est terrible. Ils se détestent de plus en plus. Et donc ça devient un clivage effroyable. Je fais une toute petite parenthèse pour répondre à nos autres auditeurs qui me disent que je suis payée pour porter la bonne parole du ministre de l'Éducation nationale et que je dois être payée 400 € et que ça me paie mon café au Fouquet. Donc je répète.
Le café est à 300 €.
Donc je dis qu'à cher auditeur de Sud Radio, je suis payée par personne. Voilà. D'ailleurs, je serais virée partout si on me payait.
Non, vous êtes payée par personne, effectivement. Denise Bombardier.
Moi, je crois qu'à l'heure actuelle, quand on regarde ce qui se passe dans tous les autres pays, je veux dire, essayer d'ouvrir un peu et de voir ce qui se passe ailleurs qu'en France. Moi, je crois qu'avec la mentalité d'aujourd'hui, et je veux dire, c'est sûr que les technologies maintenant, auxquelles on a...
Les réseaux sociaux.
Oui, les réseaux sociaux et tout ça. Les valeurs collectives. Parce que pour avoir des consensus, il faut qu'il y ait un certain nombre de valeurs collectives. C'est-à-dire, on partage tout le peuple, toute la nation, d'abord la nation n'existe plus, en tout cas pas chez nous, pour M. Trudeau, lui il est dans le poste national, donc c'est tous des petits groupes, c'est des communautés culturelles, c'est des communautés sexuelles, c'est, et ben voilà. Ouais. Et alors là, c'est l'individualisme triomphant, et moi je crois que les gens, on le voit bien quand on a des réactions du public, moi je suis chroniqueur politique, je vois bien les réactions, c'est parce que chacun pense que lui, il peut avoir une idée et qu'il ne veut pas être représenté par d'autres. Mmh. Au Québec, on a un gouvernement qui a été élu, le gouvernement de M. Legault, qui est un gouvernement nationaliste. C'était un souverainiste qui a compris après deux référendums qu'il fallait changer. Il a été élu avec 36 % des voix. Mais il a 85 % des francophones qui votent pour lui. Oui. Alors donc, vous voyez, mais il n'y aura jamais plus, alors qu'avant, il pouvait être élu avec 45, 50. C'est fini, ça.
Je pense que sur le mouvement des Gilets jaunes et l'absence de parole aussi, de dire, on a ce sentiment qu'il y a un manque de représentativité de certaines paroles, elle s'applique aussi sur la critique plus large de la presse, en disant, on a trop de grands financiers qui détiennent les titres de presse, et finalement, ils sont neufs à tenir 80 % de la presse.
Cette accusation est quand même très sévère. Parce qu'on n'a pas les mêmes tonalités selon tel ou tel journaux.
Pas les mêmes tonalités, mais toujours, effectivement, on va mettre en avant à peu près pareil. Regardez la campagne, le nombre de couvertures qu'il y a eu sur Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Ça pose question. En disant, il y a eu beaucoup, beaucoup, parce que c'était ce qu'on appelle le média darling.
Alexis, les médias, ça a commencé avant la campagne. Moi, je dirais pas la même chose. Je dirais que dès 2015 même, il y a beaucoup de choses sur Emmanuel Macron, mais pendant la campagne, qu'est-ce qu'on parle de Fillon? Qu'est-ce qu'on parle de Mélenchon? Aussi de Mélenchon ou de Marine Le Pen, c'était moins le cas.
Mais les couvertures sont majoritairement couvertures,
Je voudrais qu'on parle de ce qui s'est passé ce week-end. Donc, tout le monde a parlé sur les réseaux sociaux. Donc, Alain Finkielkraut, philosophe, académicien, qui s'est fait insulter. Barre-toi, sale sioniste de merde. Je ne répète pas les propos. Tout le monde condamne, certains avec des mais, dont la France insoumise qui dit, on refuse l'instrumentalisation qui consiste à prendre le fait de quelques individus isolés pour dire que tous les gilets jaunes seraient antisémites, ce qui n'est pas forcément non plus le propos de tout le monde. On a Eric en ligne avec nous. Bonjour Eric. Non, ce n'est pas Eric, on n'a plus notre auditeur. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé ce week-end?
Le pire, Eric Sipoulin. C'est catastrophique. La scène, elle est effrayante parce que vous avez le pouvoir de la foule qui hurle sur un individu isolé. Heureusement, alors il y a certains gilets jaunes qui se mettent au milieu et les policiers et qui exfiltrent Alain Finkielkraut qui sourit. On a l'impression qu'il n'entend pas ce qu'on lui dit. Enfin, c'est assez étrange cette scène. Et vous avez des mots qui sont, enfin, des insultes qui sont indignes. Il n'y a pas de mais à avoir sur l'antisémitisme. C'est d'ailleurs heureusement qu'il y a un appel transpartisan pour un rassemblement demain à La République à 19h. Oui. Et la France Insoumise en fera partie avec tous les autres partis quasiment français. Donc c'est important de dire que...
Contre les manifestations, c'est insoutenable.
Non mais c'est pas ça. C'est de dire, si vous êtes républicain, vous pouvez pas être antisémite. Il faut à un moment redire les fondamentaux de la République. Et ça, c'en est un.
Beaucoup s'interrogent sur le fait qu'il n'est pas arrêté, que les policiers qui étaient là n'aient pas arrêté ceux qui ont insulté Alain Finkielkraut. Je pense que les policiers
sont un peu débordés. Je pense qu'ils ont compris que c'est la situation. On ne va pas les accuser.
Denis, ça vous inspire quoi ? Il y a de l'antisémitisme aussi au Québec qui est latent.
Oui, de toute façon, si je vous disais non, c'est pas possible. Il y a toujours de l'antisémitisme partout. Mais il y a aussi... Il y a aussi des gens qui pensent que c'est plus les juifs qui sont au premier rang là-dessus. C'est que au Québec, il y a des gens qui sont carrément anti-musulmans. Mmh. Ça c'est clair. Oui. Bon, mais il n'y a pas d'islamophobie systémique comme des militants de l'islam veulent le faire croire. Vous voyez, alors on est pris là dans des problèmes. Mais moi, j'étais excessivement choquée hier, parce que je l'ai revue deux fois, cette scène-là. Mmh. J'ai été extrêmement choquée, et moi, je dis, il faut que la politique, instrumentalise, si les politiques se taisent quand on voit une chose pareille, pour dire, non mais c'est ça, de toute façon, c'est Mélenchon qui a dit que c'était instrumentalisé.
Ouais. Il a condamné, évidemment, conscient de l'instrumentalisation de l'antisémitisme, je crois aussi qu'il ne faut jamais laisser passer le racisme.
profite.
C'est ça, oui.
Tout le monde tout est outré par ce qui s'est passé. Mais, et il y a encore un politique qui en profite pour fustiger les autres politiques.
Tous. Attendez, moi, je vous invite. Regardez, c'est tout le monde y va de sa petite diatribe sur un cas isolé, personnel. Il n'y a pas. Enfin, c'est un front commun et il n'y a pas.
Enfin, isolé qui vient avec beaucoup d'épisodes. Les Croix Gammées sur la bataille de Simone Veil. Kylian Mbappé sur sur un graffiti du RR. Je ne dirais pas ce qui a été écrit, mais vous le savez. Le magasin Bagelstein, c'est quand même toute une série d'incidents qui montrent qu'il y a une sorte de haine antisémite qui s'est de nouveau libérée en France.
Quel est le rapport avec les gilets jaunes? Et ça vous arrange, vous, médias, merdia, comme on nous dit, journalop, on a trouvé ce genre de choses sympathiques. Je l'ai dit volontiers à l'antenne, puisque c'est la réalité des insultes et des commentaires qu'on reçoit.
Mais là, ils ont raison. Quel est le rapport avec les gilets jaunes?
Il n'y en a pas.
Il y a autant...
Eh bien, ils avaient des gilets jaunes, ceux qui ont dit ça.
Oui, mais vous avez d'autres qui n'ont pas de gilets jaunes qui sont aussi antisémites. Le problème, c'est l'invisibilité
bien
aussi.
Sûr,
on ne va pas résumer un mouvement à quelques excités qui sont proches. En plus, apparemment, la personne qui a proféré les insultes est proche de la mouvance radicale islamique. Donc non, on ne va pas résumer le mouvement à ça. C'est un problème beaucoup plus large. Et justement, il ne faut pas l'instrumentaliser politiquement parce que c'est un problème de nous tous, de la République française, de la nation, de dire on ne peut pas tolérer cette mécanique du pire qui fait que le complot fait que le juif est l'ennemi de la France. Ça suffit.
Le complot, il y a quelque chose qui est assez intéressant par rapport à cette question. Est-ce que les gilets jaunes sont responsables? Bien sûr que non. Ça serait leur imposer une accusation collective. Et c'est la base du racisme. Mais dans l'enquête IFOP faite pour la Fondation Jean Jaurès, dont vous avez beaucoup parlé, Valérie, la semaine dernière, sur le complotisme, il y a des questions qui ont été posées spécifiques aux personnes qui se considéraient proches ou qui se définissaient comme gilets jaunes. Et c'est vrai que la part auprès de ce segment, de ceux qui sont plus nombreux que la moyenne à voir dans le sionisme un complot mondial, toute une série de complots est plus importante auprès de ces populations. Pas parce qu'ils sont complotistes, parce que le complot est une manière pour eux simples d'expliquer le monde. On n'a plus la maîtrise de notre destin et donc on nous cache des choses.
Sur l'affaire Field Control, j'ai écrit un article sur lemondemoderne.media où je parle justement d'une étude de deux universitaires anglais qui prouve effectivement que l'antisémitisme est corrélé à l'antisionisme. Donc c'est bien, quand on est antisioniste, on a plus de chances d'être antisémite que si on ne l'est pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas un antisionisme antiraciste et non antisémite. Mais le problème est là, c'est-à-dire que vous avez une corrélation qui existe, qui est prouvée par des études, mais vous ne voulez pas voir de l'autre côté un antisionisme qui serait une geste politique en disant on peut critiquer la politique de Netanyahou ou d'Israël sans être antisémite. Ça, il faut faire attention parce que ce matin,
des députés voudraient qu'on qualifie l'antisionisme comme un délit.
Voilà, c'est une confusion.
C'est une opinion.
Donc ça, c'est du délit d'opinion politique. Et là, on est dans l'âge de la confusion mentale que des députés aient cette idée-là. C'est catastrophique. Il ne faut pas nier le fait qu'il y a ce problème-là de corrélation, mais il ne faut pas en faire un racisme.
Moi, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment tout ça peut continuer? Ce mouvement qui est légitime, qui est profond et qui est entaché.
Pas légitime, mais il ne faut pas exagérer, on n'est pas sûr qu'il soit légitime.
Si, on a le droit de gueuler en France.
Légitime dans le sens où on ne peut pas continuer à avoir des gens aussi pauvres et des gens aussi riches.
Au début, mais là, c'est plus légitime de continuer comme ça, c'est ce que je veux dire.
Non, mais le mouvement de base, le mouvement fondateur...
La revendication, peut-être très bien comprise, sur une saturation absolue de la fiscalité française,
et
qu'on a essayé de résoudre en rajoutant d'autres taxes. Je vous signale qu'actuellement, le patronat va quitter la table des négociations, ce qui est très embêtant avec les syndicats, que donc ça va revenir à l'État de décider sur un bonus-malus des contrats courts. Bon, ça a l'air bête, mais c'est encore un impôt qu'on est en train de rajouter. Je veux dire que le ras-le-bol, il va y avoir des gilets jaunes patrons bientôt.
Allez, on se retrouve dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff. Nous parlons donc de l'agression dont a été victime Alain Finkielkraut, agression antisémite. On en parle avec vous. Et c'est vrai que celui qui l'a agressé, les services de police ne l'ont pas arrêté. Vous êtes vraiment très nombreux à nous dire pourquoi, alors qu'il y a des tas de gilets jaunes qui ont été arrêtés pour rien, on n'a pas arrêté ce type. Alors peut-être que sur le moment, c'était une foule, il y avait du monde qui parlait, je ne sais pas. En tout cas, il y a Ingrid Levavasseur qui aussi a été insultée, traitée de sale juive. Elle a annoncé qu'elle allait porter plainte, donc c'est aussi la solution. Alain Finkielkraut, lui, dit qu'il ne portera pas plainte. On a deux appels. On a Éric de Béziers en ligne avec nous. Bonjour Éric.
Oui, bonjour. Donc, Déjà, à titre personnel, je condamne ce genre d'acte, mais je ne comprends pas comment on peut associer ce genre d'acte isolé au mouvement des Gilets jaunes.
Bah, parce qu'ils sont dans une manifestation de Gilets jaunes avec un Gilet jaune. Donc, a priori, je suis d'accord avec vous que ce n'est pas forcément des Gilets jaunes, mais ça en a tout l'air.
Bon, c'est sûr qu'ils sont au sein d'une manifestation Gilets jaunes, je suis d'accord. Mais tout le monde essaye et joue sur ce moment pour essayer de coller une étiquette au niveau des Gilets jaunes. Tout le monde veut coller une étiquette au mouvement Gilets jaunes. L'extrême droite, l'extrême gauche, tout ce qu'on pourrait dire. Mais l'étiquette qu'on peut coller sur ce genre de, sur les Gilets jaunes, c'est populaire. C'est le peuple, c'est une représentation du peuple français.
Mais vous voulez dire que le peuple peut être raciste, antisémite, d'extrême droite, d'extrême gauche, c'est ça ?
Mais voilà, tout à fait. Malheureusement, on n'a pas attendu les Gilets jaunes pour s'apercevoir de ce genre de choses. On a eu beaucoup méfait de ce style bien avant les Gilets jaunes et malheureusement, je vais...
Et alors, l'attitude qu'il y a eu vis-à-vis d'Ingrid Levavasseur, vous considérez, par exemple, parce que ça, c'est vraiment Gilets jaunes contre Gilets jaunes, vous trouvez ça normal ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Et je n'étais pas au courant, donc je ne préfère pas en parler. Non, c'est pas du tout normal. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, ce que je veux vous dire, que c'est vraiment une représentation du peuple. Le peuple, ne serait-ce pas aussi encore une erreur de tous ces gouvernements consécutifs ? Pourquoi on en arrive là ? Pourquoi en 2019, actuellement, on entend encore ce genre de discours ? C'est tout à fait pas normal. Je pense que c'est un échec au niveau de tous les gouvernements consécutifs. Oui. Il ne faut pas mettre le doigt là-dessus et jouer là-dessus. Moi, je trouve ça extrêmement dangereux. Ça s'est passé dans un mouvement de Gilets jaunes. Je suis d'accord. Mais dans combien d'autres manifestations qui s'est passé ? On va prendre un exemple tout simple, je suis désolé. Mais regardez quand la France a été championne du monde de foot. Il y a eu de la casse sur les Champs-Élysées. C'est pas pour ça que tous les supporters de foot sont des casseurs. Donc, il faut savoir faire la différence, je pense, entre le mouvement des Gilets jaunes avec leur revendication première, qui est pour moi des manifestants qui demandent une vie meilleure avec une augmentation de salaire, de retraités. Bon, vous les connaissez, tout ce genre de revendications.
Bien sûr. Mais qui semble loin, et là, ce type d'incident fait que on a perdu de vue les revendications de départ.
Bien sûr, mais moi, si vous voulez, je suis quelqu'un de curieux. Donc, avant de parler des Gilets jaunes ou quoi que ce soit, je me suis rendu à des assemblées de Gilets jaunes. Oui. J'ai été sur les ronds-points, j'ai discuté avec des Gilets jaunes. Et je peux vous garantir, madame, que je n'ai jamais entendu ce genre de sujet. Sinon, je ne m'approcherai pas d'un Gilet jaune, je vous le dis honnêtement. Donc, moi, je fais appel à tous ces, à toutes les personnes des médias ou même tous les auditeurs qui sont curieux de se rendre dans les assemblées de Gilets jaunes. Écoutez et regardez ce qui se passe et après, se faire son propre opinion. Je pense que ce genre d'histoire est loin des revendications de Gilets jaunes. Et heureusement, c'est vraiment un mouvement populaire. Voilà.
Ouais. Oui, mais là, ça tourne mal.
Merci. Alors, Denise voulait réagir. Denise
Moi, je ne crois pas que parce que là, maintenant, il y a des gens qui disent « nous sommes le peuple ». Moi, je ne crois pas que le peuple a plus de vertu que ceux qui ne seraient pas le peuple, honnêtement. À moins que ce soit des
exploiteurs. Tout le monde est le peuple.
Voilà, tout le monde est le peuple. Tout le monde est le peuple. Bon, et je vous signale aussi que M. Trump, lui, il parle au nom du peuple. Il dit que c'est le peuple américain qui l'a élu. Or, on sait très bien qu'ils sont ceux qui l'ont élu et qui vont probablement, très probablement, le réélire.
Ah oui.
Parce
que j'entendais ce matin.
Ah non, non, mais moi,
il y avait une tentative de le démettre.
Il est protégé. Rêver en couleur, là. Mais c'est sûr, il va être probablement réélu. Par ceux dont il dit qu'ils sont le peuple. Alors, la notion, quand les gens se mettent à dire « je représente le peuple »,« moi je représente le peuple », ça veut dire qu'ils excluent tout le monde, tous les gens qui ne sont pas comme eux. Moi, je me méfie beaucoup de ces termes-là.
On a ceux qui disent « je suis la République » aussi.
Oui, ça c'était...
Ah, voilà. On a Patrick en ligne avec nous. La personne du député, représente la République.
Patrick, ça, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez Fréjus.
Oui, bonjour. J'habite Fréjus, donc j'ai appelé parce que j'habite Fréjus. Je suis de confession juive. Je suis RN depuis 4 ans et je suis très très surpris quand j'entends tout ce qui se passe, tout ce qui se dit sur le RN. Et déjà, ce qui va se passer demain, que le RN ne peut pas participer à cette manifestation, ça me choque terriblement.
Le Rassemblement national ne peut pas. Alors, ce matin, Olivier Faure a dit qu'il pouvait participer. Oui. Je trouve que c'est d'une hypocrisie incroyable, qu'il pouvait participer, mais qu'il refusait que Rassemblement national signe la charte.
Voilà le problème de la manœuvre politicienne.
Alors, on vous écoute, Patrick.
Moi, madame, je vais vous dire. Il y a une chape de plomb sur ce parti, et moi, je sais la différence entre le père et la fille. Moi, avec David Rachline et toutes ses équipes, ce sont des gens que je côtoie depuis 4 ans en tant qu'habitant de Fréjus. Sincèrement, il faudrait que les journalistes, parce que je parle des journalistes, soient venus à Fréjus pour voir comment fonctionne cette ville. Ce sont des gens qui travaillent, des gens qui sont pour le bien de Fréjus, qui sont là. Moi, tout le monde sait dans l'équipe municipale que je suis juif, mais j'ai jamais eu de remarque de personne. Alors, c'est vrai qu'on a un point commun tous ensemble, c'est que cette immigration massive, elle nous plaît pas. Ça, c'est notre point commun. Je suis un fils de pied noir. On est parti en 62. Vous savez dans quelle condition on est parti. On arrive en France et à nouveau, c'est une immigration. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous gêne. Mais autrement, moi, en tant que fils de juif, j'ai jamais eu de problème avec les gens du RN à Fréjus. Les choses se passent super bien. Et alors, Madame Buzyn, Madame Buzyn, bon, c'est quand même la belle-fille de Simone Veil. Elle connaît bien l'histoire des juifs. Elle sait bien ce qui se passe depuis 15 ans. Qui c'est qui a tué tous ces petits juifs? Qui c'est qui chasse les juifs de France? C'est pas l'extrême droite, c'est les musulmans, mais il faut le dire. Mais tout le monde le dit maintenant, mais c'est la vérité. Et alors on a l'air de dire, c'est le RN. Mais le RN, ils ont autre chose à faire. Il y a d'autres problèmes. Je vois à Fréjus, David Rachline, il a récupéré une ville qui avait 144 millions de dettes.
Non, mais on entend ce que vous dites, hein, Alexis Poulain.
Il y a une réalité historique. Effectivement, vous faites la différence entre Monsieur Le Pen et Madame Le Pen, qui fait que ce parti, Madame Le Pen, avait ouvert le bal de tous les plus extrêmes européens en Autriche, qui a toujours eu quelques connivences. Et effectivement, on n'a plus cette alliance avec des négationnistes comme Forisson, parce que le RN est en train de faire sa mue et a compris qu'il fallait maintenant être européen, par exemple, être pour l'euro. Enfin, c'est un parti très protéiforme qui change en fonction de là où on peut faire des voix. Donc c'est normal aujourd'hui qu'on en soit là. Mais il y a une histoire de ce parti qu'il ne faut pas oublier. À la Fondation et Marine Le Pen, qu'elle le veuille ou non, en est l'héritière.
Oui. Alors, on a plusieurs réactions. Moi, ce que je ne supporte pas...
Elle a même changé de nom pour ça.
Ce que je ne supporte pas de nos auditeurs, c'est ceux qui nous disent « Vous êtes dans votre studio à Paris, vous faites ci, vous faites ça. » Autour de la table, ils sont combien ceux qui ont déjà rencontré vraiment un ou des gilets jaunes? Monique, je vais vous dire, on en a rencontré, on est allé dans les manifs.
Absolument. Donc,
c'est insupportable, cette espèce de défiance permanente, c'est insupportable. En revanche, je rejoins Cédric qui dit « Est-ce que vous avez entendu Salle juive sur la vidéo de Ingrid Levavasseur? Moi, je ne peux pas certifier l'avoir entendue.
Vous l'avez entendue?
Elle a été traitée de salope, de collabo, mais j'ai pas entendu.
Il y a eu des doigts d'honneur systématiques devant elle.
Mais pas Salle juive, il a raison, Cédric.
Je ne sais pas, j'ai pas vu la vidéo.
Elle a été d'un calme, il faut quand même dire une chose, c'est qu'elle a été d'un calme incroyable. Elle a été exfiltrée par la police qui a bien fait le boulot, parce qu'une exfiltration, c'est très difficile. Donc c'est vraiment, ce sont des moments difficiles, mais bon, on peut se réjouir que la police ait réussi à les filtrer, qu'elle ait gardé son calme.
J'ai reposé la question, vous avez 30 secondes pour répondre, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer? Vous voyez quoi, vous? Est-ce qu'on en parle au Québec, des gilets jaunes? Est-ce qu'il y en a au Québec?
On n'en parle plus, non, on n'en a pas. Il y a des gens qui parlent, qui veulent parler au nom du peuple. On a un parti d'extrême gauche maintenant qui disent c'est nous le peuple, qui a quelques députés à l'Assemblée nationale. Ouais. Mais ceci dit, on n'en parle plus parce qu'on ne sait pas pourquoi ils sont dans la rue, sincèrement. Ouais. Parce que ça marche mal, la France marche mal. Nous qui sommes sensibles au déficit, on connaît le déficit de la France. Et c'est sûr que ça va finir par avoir des incidences sur l'économie. Je veux dire, vous pouvez bien baisser les taxes ou empêcher, baisser les impôts, mais si vous voulez une augmentation des services en même temps, on ne comprend pas beaucoup, parce que nous, on a subi des coupes. Je veux dire, chez nous, les gens acceptent qu'il y a des coupes. Ouais. Et il y en a eu des très fortes, et maintenant, ils réagissent contre ça. Mais ça prend 6 mois pour se faire opérer chez nous, maintenant, parce qu'il faut faire la file. Le système marche mal.
Alors, les gilets jaunes ont peut-être raison de gueuler avant qu'on en arrive
Alors,
là.
La question à Valérie qui demande qu'est-ce qu'on fait maintenant. Je crois que le président de la République devrait arrêter le grand débat, le clore, parce qu'il y a un moment donné où tout part à volo, les ministres font des propositions de leur côté, comme s'ils étaient dans le grand débat. On ne sait plus à quoi s'en tenir économiquement. Moi, c'est ça qui m'inquiète, parce que c'est un peu ma partie. Ce grand débat, d'évidence, ils s'en foutent complètement, les gilets jaunes, mais complètement.
Allez, on s'arrête.
Donc, stop.
Allez, on se retrouve demain. Dans un instant, vous allez retrouver André Bercoff, qui vient de faire son entrée dans le studio. Merci, Denise Bombardier, d'être passée par Sud Radio. Votre livre, Une vie sans peur et sans regret, paru chez Plomb. C'est passionnant. Merci à vous.
Merci.